marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée ce week-end au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous sommes dans une ville royale des bords de Loire et le thème du festival cette année, c'est Eureka. Et pour la 4e année consécutive, nous enregistrons notre émission en public au café Fluxus, au cœur même de la Fondation du Doute, dont la façade est criblée des aphorismes de Ben, avec cette écriture blanche et ronde qui nous invite à nous questionner sur des inventions, des découvertes, des innovations, nous questionner aussi sur celle de l'atome avec la réalisatrice Elisabeth Levray. Bonjour.
Bonjour.
Mais aussi nous interroger sur les relations entre les sciences et le pouvoir, qu'il soit étatique ou religieux, avec la physicienne Fawzia Sharfi.
Bonjour.
Bonjour. Alors c'est vous qui prononcez la conférence de clôture sur l'autonomie de la pensée face au discours religieux contemporain. Et je vous remercie de nous livrer tout de suite les mots clés de votre réflexion ici à Blois et en public dans la Marche du Monde.
Merci de me donner l'occasion de vous faire découvrir ce qui fait l'objet de mes préoccupations actuelles, donc venant de Tunisie, un pays maghrébin, méditerranéen, ouvert sur le monde. J'ai envie de revenir vers les siècles où la science en pays d'islam était très présente. Elle était très présente, on le sait, en astronomie, en mathématiques et dans aussi d'autres domaines tels que la médecine. Mais ce à quoi j'ai envie de faire référence, c'est cette curiosité que certains avaient par rapport aux êtres vivants. Et donc je vais me référer à Al-Jahd, donc un grand prosateur arabe du 8e, 9e siècle, et qui était, faisait partie donc, de cette école rationaliste qu'on appelle les Mu'tazilites, qui était donc pour la raison, pour la réflexion. Et Al-Jahd analyse les êtres vivants, les animaux, dans un très très long traité. Et il commence déjà, donc, à cette époque, 8e, 9e siècle, à parler de l'évolution.
Alors, est-ce à dire, Fawzia Sharfi, que vous référez à ces observations en ce qui concerne l'évolution des animaux? Vous y voyez déjà une genèse, en quelque sorte, de la théorie darwinienne de 1859, qui va être exprimée dans l'ouvrage qui a révolutionné la biologie de l'origine des espèces?
Oui, dans le sens où, pour Al-Jahd, il n'y a pas une création unique à un moment donné. Donc, il y a création d'espèces, les unes après les autres, et donc il détaille cette évolution. Et en fait, il commence déjà à faire appel à certaines notions, c'est-à-dire l'influence de l'environnement, etc. Et c'est pour moi le fait qu'il y a une réflexion sur la nature qui est indépendante du religieux.
Oui. Mais c'est une réflexion sur la nature que les islamistes, notamment les islamistes politiques, révoquent.
Alors, ils la révoquent aujourd'hui, effectivement, et on peut se référer à de nombreux écrits islamistes, mais en fait, ils ont adopté le point de vue qui est tout à fait étranger au monde musulman, c'est-à-dire le point de vue des créationnistes ou des néo-créationnistes américains, dans cette manière de considérer qu'il y a, voilà, il ne peut y avoir étude de la nature sans référence au texte sacré. Et ça, c'est fondamental.
Et dans ce leur qui est très vision. Intéressant, c'est qu'on retrouve donc ce regard critique, ce regard qui pour vous est un regard d'intolérance, autant chez les islamistes au fond que chez les protestants intégristes. Alors au fond, Fawzia Sharfi, votre question, c'est la question de l'indépendance de la science, c'est la question de la nécessité d'une pensée indépendante du religieux pour penser le monde.
Tout à fait. Et au cours de ces 3 jours ici à Blois, on va reparler de la science, de Galilée, du combat, justement pour que cette science soit autonome par rapport aux religieux et que, voilà, on peut tourner le télescope vers le ciel et non pas vers la terre.
Fawzia Sharfi, vous êtes une physicienne, mais vous êtes aussi une intellectuelle libre, indépendante, vous venez de le montrer, mais vous êtes aussi un grand témoin de l'histoire de votre pays, la Tunisie. Alors j'aimerais que l'on revienne peut-être sur trois moments de votre album personnel, peut-être trois photographies. J'aimerais voir une petite Faouzia qui est petite fille dans les années 40. Dans quelle Tunisie elle grandit et justement quelle est sa relation aux religieux à l'époque ?
Ben vous savez, quand j'étais petite, on ne parlait pas de religion à la maison. C'est pas difficile. On parlait, voilà, de la vie. Effectivement, on a toujours envie de solidarité, d'amour de l'autre, de respect de l'autre. Et je n'ai pas eu d'éducation religieuse dans le sens, strict du terme, parce que pour mon père, effectivement, ce qui était important, c'était les valeurs de liberté, de respect de l'autre. Et pour lui, évidemment, l'islam, était une religion, est une religion qui respecte et qui, en quelque sorte, pousse le croyant à cette conviction que la liberté est essentielle et la responsabilité du croyant est essentielle. Mais il n'y a pas de religion dans le sens social du terme.
D'un mot, vous diriez que vous avez reçu une éducation laïque qui sépare en fait le religieux de la vie publique. C'est une affaire privée au fond. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Et alors 57, bien sûr, autre image de votre album personnel, Indépendance de la Tunisie, Bourguiba président, et ça va durer 30 ans. Comment vous avez vécu ces années d'émancipation des anciennes colonies, des anciens protectorats français? Comment votre pensée évolue à ce moment-là?
Vous savez que souvent, on pense qu'il ne s'est rien passé pendant la colonisation à l'école. Hein, je parle de l'école. Parce que moi, justement, j'étais à cette école française, qui est l'école laïque. Mais en fait, moi, je ressentais quand même le regret que la Tunisie n'était absolument pas présente à l'école. Elle n'était pas présente au lycée. Et l'indépendance, donc 56, mars 56, c'était vraiment le point de départ d'une ouverture. La Tunisie s'ouvrait vers le monde et voilà, c'est le début d'une belle histoire aussi de la Tunisie indépendante.
La Tunisie indépendante, l'Algérie indépendante aussi dans ces années 60, et ce sont également ces années des essais nucléaires de la France au Sahara, et c'est le sujet de votre film, Elisabeth Levray. Dans quel contexte à l'époque ces essais nucléaires ont lieu, puisque par définition le Sahara à ce moment-là n'est plus français, mais algérien? Un petit rappel peut-être du contexte historique.
Alors en fait, ça démarre, la question des essais nucléaires prévus, organisés par la France, démarre dans les années 50. Hein. C'est un grand projet de la France qui se fait en terre coloniale. Il y aura 13 essais en Algérie, le premier se produisant donc en 1960, la Gerboise bleue, on a tous en tête, 4 essais atmosphériques, puis 13 souterrains. Avec Atome, on fait le choix de revenir sur un des essais qui sera souterrain, mais il est particulier parce qu'il se produit le 1er mai 62. Il est particulier à deux titres. Il a lieu après la signature des accords d'Évian et ça sera aussi le plus grave accident nucléaire qui se produira dans le Sahara algérien. Donc c'est une façon de revenir à la fois sur un événement majeur et d'attirer l'attention sur le fait que c'est un essai qui se produit après la signature des accords d'Évian, donc dans une situation où il y a eu des pourparlers, où la France et l'Algérie, en tous les cas le Sahara algérien indépendant, est mis à la disposition de la France.
Accords d'Évian qui vont donc sceller la toute nouvelle indépendance de l'Algérie.
Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation, parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France.
En 1962, j'avais 17 ans. L'année où a sauté Taourirt, la bombe de Taourirt.
Ils ne nous ont pas dit qu'elle contenait une chose qui rendait malade ou qui tuait ou autre chose. Ils nous l'ont caché, voilà.
Quand les gens sont tombés malades et que l'on a compris, c'était trop tard.
Extrait du film Atome de Elisabeth Levray. Alors, à l'époque, est-ce que ces essais nucléaires sont connus du grand public en Algérie?
Non. Non. Je dirais, à l'époque, il y a quelque chose qui se passe à l'insu des populations qui sont sur le territoire. C'est évident.
Et dans le cadre d'accords, vous l'avez évoqué, il y a eu des négociations, bien entendu, au moment des accords d'Évian, et la possibilité pour la France de pouvoir disposer de ce grand territoire désertique. Hein, on l'a entendu dans l'archive où il n'y aurait eu personne. Et ce territoire-là est dans la balance. Des accords secrets vont se nouer entre les deux parties.
Oui, alors ce qu'il faut dire sur cette notion justement de désert, c'est un travail que j'ai pu faire grâce au travail photographique de Bruno Hadji, qui a mené à la fois un travail photographique et aussi une enquête sur place. Et lui, ça s'inscrit dans une réflexion qu'il a par rapport au monde saharien, aux représentations qu'on en a, et évidemment aux représentations occidentales et coloniales. Cet espace est tout sauf un espace sans vie. Il y a un écosystème au Sahara. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que la France choisit, au nom d'une idéologie coloniale, de décréter que, voilà, que c'est dans un territoire libre, disponible, où les choses vont pouvoir être faites en toute sécurité, avec toutes les précautions prises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur cet impact contemporain de l'histoire coloniale française, et au propre comme figuré sur la question des retombées.
Alors, Elisabeth Levray, vous l'avez souligné, à l'époque, en Algérie, ça passe inaperçu. Alors vous, Fawzia Charfi, est-ce que vous qui êtes étudiante à l'époque à Paris, jeune physicienne, jeune intellectuelle, tout à fait sensibilisée aux questions coloniales, est-ce que vous en entendez parler?
Ça passe complètement inaperçu, on n'en parle pas dans le milieu étudiant, on n'en parle pas en Tunisie non plus. Et en fait, moi j'ai découvert vraiment ce moment terrible à travers un discours que Bourguiba avait prononcé en 1960, et je l'ai découvert dernièrement, vous dire à quel point effectivement c'est passé inaperçu.
En ce qui concerne justement la mémoire de cette histoire, on a bien compris que c'était dans le cadre d'accords secrets, on a bien compris qu'on est une époque où la France expérimente justement l'atome. Les populations ne sont pas à l'époque prises en compte, les opinions publiques ne sont pas au courant. Néanmoins, aujourd'hui, puisque ce qui vous intéresse, c'est justement ce rapport entre l'Algérie contemporaine et son ancienne puissance colonisatrice, la France, où en est cette mémoire aujourd'hui, Elisabeth Levray?
En fait, c'est un travail qui est tout à fait inédit, hein, qu'on propose, d'autant que le projet est aussi de vraiment d'inscrire dans du présent, dans du contemporain, d'examiner justement ces retombées, qu'elles soient radioactives, mais également les retombées de l'histoire, et qui va très loin, puisque Bruno Hadji, dans sa démarche, remonte jusqu'aux années 90, où on découvre que les espaces qui étaient trois espaces d'expérience à la fois atmosphérique, souterraine, puis des espaces d'essais chimiques et bactériologiques vont être recyclés, entre guillemets, pour incarcérer des citoyens algériens dans les années 90.
Nous avons ressenti que le système voulait se débarrasser de nous sans éveiller l'attention de la population, ni des organisations, ni des pays. C'est là qu'a commencé le grand calvaire chez les détenus. On sentait la mort venir, tout le monde avait peur, tout le monde était dans la terreur. Il y avait des fous, il y avait des malades, il y avait des vieux qui dépassaient les 70 ans, il y avait des jeunes qui n'avaient même pas 14 ans. Il y avait des anciens combattants de la révolution algérienne. Donc il y avait un monde différent. Et en observant notre environnement, on a vu qu'il n'y avait aucune vie. Il n'y avait ni faune, ni flore. Et le malheur, que tous les détenus ont ramassé des pierres, parce qu'il y avait des pierres de plusieurs couleurs, elles étaient belles. Et on a tous emporté ces pierres chez nous. Ce qui fait qu'on a transporté la radiation chez nous. Qu'on a irradié même les membres de nos familles. Donc l'irradiation s'est agrandie à grande échelle. Elle était uniquement à Reghen, mais maintenant, elle est un peu partout en Algérie.
Donc dans les années 90, Elisabeth Levray, cet espace, encore une fois, imaginé comme désertique, alors vous avez souligné que c'était un imaginaire colonial, mais on voit bien que l'Algérie indépendante, que la nation algérienne se réapproprie, au fond, cette idée que dans cette zone désertique, on peut secrètement se livrer à des expérimentations, qu'elles soient physiques, scientifiques, ou que ce soit pour incarcérer, pour cacher un certain nombre d'individus.
C'est vrai que sur cette question, en tous les cas, de la radioactivité, cette découverte faite par Bruno Hadji est très à la fois choquante, sidérante. Ce qui m'intéressait, c'était cette approche sensible d'une réalité terrifiante, mais qui est que, à notre insu, l'histoire irradie. Et on est chacun, on est héritier d'une histoire, mais on est, je crois, héritier des retombées de l'histoire.
Fawzia Sharfi, vous êtes physicienne, l'atome c'est pas que ça.
Bon, moi ça me choque beaucoup qu'on puisse utiliser le nucléaire. Et je vous dis, là, le discours de Bourguiba sur cette explosion au Sahara, c'est terrible. L'atome c'est aussi la radiothérapie, la guérison de cancer. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est que comment faire en sorte qu'on ne voit aujourd'hui que des retombées plutôt positives de la science sans aucune naïveté, je veux dire. On sait très bien que certaines choses, et ce que je regrette aussi aujourd'hui encore, c'est qu'il y a énormément de recherches en vue des applications militaires et non pas en vue d'applications au bénéfice de la société. Toute la question est là.
Vous qui êtes une intellectuelle engagée, ça pose aussi la question de la responsabilité morale du scientifique face aux politiques, face aux religieux, face à l'histoire.
Bien sûr, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une éducation au niveau de l'enfant déjà très tôt. C'est quoi la science? C'est, je veux dire, être scientifique, c'est pas chercher n'importe quoi. Je pense qu'il doit y avoir aussi, et aujourd'hui, par exemple, quand on pense à certaines questions telles que les nanosciences, etc., il faut qu'il y ait une éducation. Même à la faculté, les étudiants scientifiques doivent aussi avoir une formation générale, un peu de philosophie, discuter c'est quoi l'éthique, qu'est-ce que l'on entend par recherche scientifique. Le scientifique n'a pas le droit, entre guillemets, de penser qu'il peut tout chercher avec... Voilà, une société qui a quand même de grands besoins au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture. Il y a tellement de domaines où, effectivement, la science peut apporter des solutions.
Mais c'est aussi le droit de dire non, un droit que vous avez déjà exercé, par exemple.
Le droit de dire non, bien sûr. Bon, je parlais de Bourguiba tout à l'heure. Ben oui, les années 60, 1968, le grand procès en Tunisie en septembre 68. Bon, j'ai fait partie des accusés. La Cour de sûreté de l'État, Bourguiba, le moderniste, ben oui.
Accusé de quoi?
Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Tout simplement parce qu'on demandait la liberté d'expression, qu'on demandait la liberté de presse. Mais déjà, le pouvoir personnel était installé en Tunisie. Évidemment, à partir de 62, tous les journaux d'opposition étaient interdits et Bourguiba ne supportait pas qu'il puisse y avoir cette contestation politique.
Merci d'écouter La Marche du Monde. Nous sommes au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois avec la réalisatrice Elisabeth Levray et la physicienne Fawzia Sharfi. Et c'est à suivre sur RFI.
La Marche du Monde. Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde enregistrée au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois, où se prêchent chaque année 30 000 visiteurs pour assister aux 500 conférences, tables rondes et films proposés, parmi lesquels nous avons choisi le documentaire Atome, signé par la réalisatrice Elisabeth Levray, Une immersion dans les zones désertiques du Sahara algérien, la rencontre des populations du Sahara prises en otage par les essais nucléaires français dans les années 60.
Qu'est-ce que tu veux ? Quelle histoire veux-tu que je lui raconte ? Je n'en connais pas d'autre que celle-là. Je n'en connais pas d'autre. Je sais seulement que quand elle a sauté, c'est comme si c'était hier. Tout d'un coup, des traînées de fumée allaient dans un sens et dans l'autre. On s'est demandé, c'est quoi cette chose-là ? Ce dez-dez. On a pensé que les montagnes s'écroulaient. On avait vu les hélicoptères voler dans tous les sens, c'était bruyant. Et tout d'un coup, on a vu une forme blanche qui est sortie de la fumée, comme une boule. On tremblait tous. Nous avons eu peur. Nous sommes partis en courant. Nous nous sommes cachés dans les arbres. J'ai dit à ma tante, fais tes prières, ça c'est la mort qui arrive. Je lui ai dit, je pense que c'est la mort qui est arrivée.
L'incompréhension, la sidération, l'abandon, exprimé aussi par l'une des femmes qui témoigne dans votre film Atome, Elisabeth Levray, d'une histoire dont elle semble totalement dépossédée. Vous nous l'avez dit, c'est encore aujourd'hui une histoire tabou en Algérie, tabou en France. Comment s'est passée votre rencontre avec ces femmes et ces hommes et comment les avez-vous amenés justement à s'exprimer sur votre histoire ? Ce ne sont pas des gens de parole.
Alors en fait, tout commence avec le travail du photographe Bruno Adji. Ce travail est préexistant au film, puisqu'il y avait déjà cette trame qu'il pose dans son projet, donc revenir sur les lieux de l'accident, cet accident produit après la signature des accords d'Évian, la rencontre avec les villageois vivant à proximité, certains étant témoins, d'autres ayant vécu les conséquences, et puis cette autre rencontre qui nous ramène à du temps présent avec ces internés des camps du Sud des années 90. Donc c'est vraiment tout ce trajet, c'est celui de Bruno Adji, ses rencontres également. Et moi j'ai réfléchi à quel sens ça pourrait avoir de faire un film autour de ça, en me posant des questions de cinéma par rapport à cette question justement de cet enjeu d'avoir à donner à voir l'invisible, donner à entendre ce qui est de l'ordre de l'inaudible. Cette parole, elle est totalement inédite.
C'est-à-dire absolument, que et vous la faites entendre. Comment vous avez enquêté ? Parce qu'il y a effectivement une démarche cinématographique, mais pas seulement. Il faut aussi parler de votre enquête et de la façon dont vous levez le voile, en quelque sorte. Les zones de sécurité à l'époque étaient, par exemple, extrêmement faibles. Vous montrez des parodies de fils barbelés qui ne protègent rien ni personne et qui, je crois, ne recouvrent qu'une dizaine de kilomètres carrés. C'est absolument incroyable ce que vous montrez dans votre film.
Mais il y a un état des lieux, effectivement, qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette histoire ? Dans quel état on a laissé les choses ?
Justement, qu'est-ce qui reste ?
Dans quel état on a laissé les gens aussi ?
Justement, qu'est-ce qui reste ?
Il reste des vestiges, et il reste des vestiges qui sont, comme le dit Bruno Adji, des natures mortes et ô combien un lieu irradié,
des radioactif,
radioactives, bien évidemment. Toute la première partie du film est faite dans des conditions où le photographe était accompagné d'un ingénieur de la CRIRAD, organisme indépendant contre la radioactivité, et où il lui était dit, voilà, ici tu peux rester 2 minutes, là tu n'y vas pas, là c'est que 30 secondes. Enfin,
encore voilà, aujourd'hui c'est dans en 2017.
Oui, bien sûr, et pour bien longtemps encore, cette histoire
va nous
survivre. Les gens vivent là, le premier village est à 60 km à vol d'oiseau, et la parole a été recueillie de façon totalement inédite, c'est-à-dire qu'on n'est jamais venu la recueillir, il a fallu attendre notre démarche.
C'est dans la rencontre.
La rencontre et le désir aussi d'installer, c'est pour ça que le dispositif est intéressant aussi, formellement, d'installer un espace de parole à partir des photographies, c'est-à-dire ce qu'on entend, donc ce que vous nous avez donné à entendre, ce doublage évidemment n'y est pas, c'est sous-titré. Vraiment, on plonge et on se baigne dans le tamasher, qui est une langue incroyable, et on arrête l'image surtout, c'est-à-dire on arrête le flux d'image, on contraint le spectateur d'une certaine façon, d'un acte très volontaire, de revenir et de s'arrêter sur cette histoire enfin.
Alors sachez toutes les deux qu'une grande nouvelle est tombée, puisque vient d'être annoncé le prix Nobel de la paix, décerné à la coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires. J'aimerais quand même avoir vos réactions, Elisabeth Levray.
Magnifique.
Fawzia Sharfi, vous connaissez le sujet, hein, oui, du combat des ONG.
Tout à fait.
Parce que c'est un consortium d'ONG qui vient d'être récompensé. Votre réaction, Fawzia Sharfi?
Ma réaction, c'est que finalement, vous voyez, les ONG, quand elles veulent défendre une idée, qu'elles se mettent ensemble, on y arrive. Donc pour moi, c'est effectivement un beau prix Nobel qui est attribué.
Fawzia Sharfi, revenons à votre album de famille après les années 60, les années 70. Vous êtes une jeune femme à l'université, oui, à Tunis. Est-ce que c'est de là que vient, que naît votre réflexion sur la nécessité d'autonomiser la pensée scientifique par rapport à la pensée religieuse? À quoi êtes-vous confrontée dans ces années 70 à l'université à Tunis?
Alors, je suis confrontée à l'université au cours des années 70 à une réticence des étudiants par rapport aux théories scientifiques, bon, en particulier par rapport à la relativité restreinte, mais aussi dans les discussions, parce que moi j'ai toujours considéré qu'être enseignant à l'université, bien sûr, mes cours de physique et que de la physique, mais on sort du cours et on discute avec les étudiants. Et justement, ce qui a changé, c'est, voyez, cette envie de s'accaparer en fait la science moderne, mais sans vraiment se l'approprier. Et c'est ça qui était vraiment nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, il commençait déjà à y avoir un sentiment anti-occidental qui existe aujourd'hui chez un certain nombre de jeunes dans nos pays. Il faut vraiment être clair là-dessus. Et voyez, j'étais d'autant plus sensible à cela que mes filles étant à l'école publique également, je voyais de la part de certains enseignants, en particulier dans des cours d'éducation islamique, mais aussi dans des cours d'instruction civique, ou dans des cours d'histoire, ou dans des cours de langue, voilà, un discours qui ne ressemblait en rien au discours qu'on attend de l'école, c'est-à-dire voilà, l'amour du savoir scientifique, du débat. Donc déjà, il y avait un certain discours par rapport aux femmes. Vous voyez, la femme n'a pas à sortir de la maison, etc. Un discours par rapport à l'histoire. La Tunisie n'a pas d'histoire. Avant l'islam, la Tunisie n'était rien, etc. Et donc, en fait, c'est là que j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas être indifférent à la montée de cet obscurantisme, et donc il fallait l'analyser, et pas seulement le combattre, il fallait d'abord l'analyser.
Alors vos interrogations, Fawzia Sharfi, vous les avez partagées pendant des années avec votre mari, Mohamed Sharfi, ancien ministre de l'Éducation sous Ben Ali, et intellectuel engagé.
Pour moi, un intellectuel qui se respecte est un intellectuel engagé. C'est-à-dire que ce n'est pas un spécialiste de quelque chose. Moi, je suis juriste de formation. Je distingue, au sein des juristes, deux catégories. Ceux que j'appelle les techniciens du droit et ceux que j'appelle les juristes. Les techniciens du droit savent parfaitement quels sont les délais, quelles sont les procédures, quelles sont les règles du droit qu'il faut invoquer pour gagner une affaire. Ils peuvent enseigner le droit. Ils le connaissent très bien. Mais ils sont prisonniers du texte. Le juriste est celui qui prend de la hauteur et qui réfléchit sur le fondement de la règle juridique. Est-elle juste? Sur l'adaptation entre la règle juridique et la société en évolution. C'est l'auteur d'une réflexion globale sur les problèmes cruciaux de la société. Voilà comment je définis l'intellectuel. Les intellectuels doivent réfléchir, pour revenir au monde musulman, où nous sommes ici, doivent réfléchir aux grands problèmes du moment. Le grand problème pour les musulmans, c'est qu'ils veulent rester musulmans, qui sont attachés à leur religion, à mon sens, à juste titre, mais qui veulent aussi être démocrates. Et ils n'arrivent pas à concilier les deux qualités. Si je suis musulman, c'est que je dois croire à la polygamie, je dois admettre ceci, cela. Mais si je suis démocrate, je dois admettre l'égalité des sexes. Alors comment on va s'en sortir?
Comment être musulman et démocrate? C'est une question qui traverse l'histoire du monde musulman et qui vous traverse, Fawzia Sharfi. Ça devait discuter ça qu'à la maison avec un bonhomme pareil.
Ben oui. Et c'est comme ça que j'ai aimé le droit à travers mon mari, parce que, vous voyez, être juriste, c'est autre chose que dénoncer des lois ou des procédures juridiques.
Et être physicienne, c'est autre chose.
Et être physicienne, c'est aussi s'interroger, voilà, sur, la science, les fondements de la science, la représentation du monde.
Et l'éducation, j'aimerais qu'on revienne sur un de vos coups de gueule qui a été quand même assez notoire, parce que ce sont des vrais débats qui ne traversent pas seulement la Tunisie, ils existent partout, au Maghreb, en France. Il y a un grand débat aujourd'hui sur justement l'enseignement de l'histoire en France, quelle histoire on raconte. Et vous-même, vous aviez pris position d'une façon très très virulente sur la réforme de l'éducation.
Tout à
récemment,
fait.
Récemment, on parle bien de la Tunisie post-révolutionnaire, post-2011.
Oui, nous avons réécrit une constitution donc entre les années 2012-2013 et... un des derniers articles qui a été discuté concernait l'éducation. Et on mettait, première version de l'article, la seule référence à laquelle on voulait faire appel, c'était l'identité arabo-musulmane. Et je viens de dire que pour moi, la Tunisie, c'est un pays maghrébin, méditerranéen. Moi, je me revendique d'abord maghrébine et méditerranéenne. Bon, après, effectivement, cette manière d'éduquer l'enfant dans les racines, entre guillemets, de l'identité arabo-musulmane est extrêmement réducteur et dangereux. Et donc, il y a eu une deuxième version, mais où on introduit effectivement les langues étrangères et un peu cette notion de civilisation, mais on n'introduit pas quelque chose qui pour moi est fondamental. Et je pense qu'en France, vous vivez exactement la même chose. Moi, je crois qu'on doit aimer son pays. Ça paraît tout bête de dire qu'on doit aimer ses pays. Mais pour moi, aimer la Tunisie, c'est placer la Tunisie dans cette magnifique Méditerranée, dans cette histoire, 3000 ans d'histoire.
Je vous laisse
magnifique.
Dire qui
Amel Mafluti, oui, c'est vraiment une des chansons qui a marqué donc ces années de liberté que nous vivons malgré toutes les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ceux qui sont en dehors de la Tunisie réalisent que voilà, je vous parle librement, mais ça, j'ai pas pu le faire pendant 40 ans. Donc il faut écouter cette jeune chanteuse et ce cri de liberté, c'est magnifique.
Et qui parle de la liberté de parole,
voilà,
qui chante la liberté. La liberté de parole. Vous avez été engagé quelques mois en tant que secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire de janvier 2011 en Tunisie. Et vous avez choisi de démissionner Fawzia Sharfi. Pour quelles raisons ?
Alors, j'ai choisi de démissionner parce que pour moi, retrouver la liberté, c'était avoir la possibilité aussi d'un gouvernement qui était plutôt voilà, dans cette rupture par rapport à ce qu'a représenté Bourguiba et après Ben Ali. Bon, je disais tout à l'heure, Bourguiba n'est pas démocratique et donc il se fait que, voilà, il fallait travailler avec un Premier ministre qui avait été ministre de l'Intérieur en 68. Ça m'était difficile. Entre autres aussi, ça m'était difficile pour la mémoire de mon mari. Je crois que c'était pour reprendre ma liberté de parole. Mais vous savez, on reste toujours... je ne suis pas dans la nostalgie, mais voilà, on a une règle de vie. Et pour moi, il fallait être cohérent. Il fallait que je sois cohérente. Et je n'ai pas regretté mon choix, puisque voilà, j'ai fait beaucoup de choses après.
Elisabeth Levray, quel regard vous portez, vous qui avez une double culture algérienne, française, quel regard vous portez sur cette Tunisie en devenir? Parce que certains observateurs, me semble-t-il, sont assez sévères, comme si finalement la révolution c'était déjà terminée. Quoi.
Je disais à Faouzia, à chaque fois que je mets les pieds en Tunisie, j'éprouve un sentiment de grande douceur.
Pourquoi?
C'est quelque chose qui est, je ne sais pas, qui est dans l'air, qui est palpable.
Vous voulez dire par contraste avec l'Algérie?
Et peut-être la France aussi. Voilà, je ne réduis pas ça comme une spécificité au Maghreb. Mais oui, je crois qu'il y a quelque chose qui nous a pas mal fascinés ces dernières années dans la tournure qu'ont pris les choses.
Est-ce que c'est un espoir aussi pour vos amis algériens? Quel regard de l'intérieur de l'Algérie est porté? Vos amis algériens regardent, vos amis intellectuels algériens regardent ce qui se passe en Tunisie. Est-ce
oui,
qu'ils
bien
sont
sûr,
inspirés
bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, d'autant que beaucoup d'Algériens se sont aussi, je crois, ces dernières années, rapprochés de la Tunisie, du fait aussi de la difficulté à obtenir des visas. Beaucoup d'Algériens vont passer leurs vacances en Tunisie. Et oui, je crois que les liens sont là.
Alors, dernières images de votre album, les couvertures de vos deux derniers livres, Faouzia Charfi, donc La science voilée et Sacrée question, j'ai envie de rajouter sacré titre. Est-ce que votre engagement intellectuel aujourd'hui, c'est justement de réfléchir aux questions sacrées et pourquoi revenir à cette question de l'interprétation du Coran? Je vous propose d'abord de redonner la parole à celui qui a été votre mari.
Si on devait traduire en langue française le mot charia, je dirais droit musulman. Et ce droit a été élaboré par les docteurs de la loi, par les théologiens, au cours des trois premiers siècles de l'Égypte. Depuis la naissance de l'islam, l'Égypte, au début c'était une simple religion. Sur cette religion, par cette religion, s'est constitué un État islamique qui est devenu un empire. Et cet empire a été géré par le droit élaboré par ce qu'on appelle les ulama. Ces théologiens ont élaboré un droit inspiré de différentes sources, mais pour lui donner une force obligatoire auprès des gens, on a dit que c'est le droit de l'islam. Et en fait, dans le Coran, on dénombre autour de 5% de versets à connotation, à couleur religieuse. Pour moi, ce sont des préceptes moraux et pas des règles juridiques. Mais les ulama ont présenté leur œuvre, qui est une œuvre essentiellement humaine, comme fondée sur la religion. Et aujourd'hui, les croyants les plus pieux pensent que tout ce que les ulama ont écrit, c'est une interprétation de la parole de Dieu. En fait, ce n'était pas ça. C'est une simple présentation.
Donc c'est absolument passionnant et on va vous demander aussi de nous expliquer un petit peu Faouzia Charfi si du coup, à l'époque, ce droit musulman, il est plutôt archaïque ou moderne? Parce que si aujourd'hui on peut lui reprocher d'inspirer une gestion archaïque de la société, notamment du droit des femmes, est-ce qu'à l'époque, quand il est pensé, interprété, on a bien compris, est-ce qu'il est moderne, ce droit?
Bien, je dirais qu'à l'époque, il n'était pas moderne parce que il a limité l'interprétation de certains versets coranique. Je prends une question qui est actuelle aujourd'hui en Tunisie, qui intéressera peut-être nos amis algériens et marocains. Nous sommes en train de discuter de l'égalité en héritage entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est une décision au niveau du président de la République tunisienne. Et j'approuve vraiment celui qui est aujourd'hui donc à la tête du pays d'initier cette réflexion et qui probablement aboutira à une loi. Pourquoi c'est important de relever ça? C'est qu'en fait, cette égalité en héritage, elle peut être possible à partir du texte coranique. Et évidemment, elle est possible si on croit au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Bon, ça, nous sommes d'accord. Mais si on se place du point de vue de l'intérieur de la religion, en fait, le Coran donne, il y a un verset très clair qui attribue à la fille la moitié de la part du garçon, mais il y a un autre verset qui permet aussi à une personne de léguer par voie testamentaire. Donc, cette part inférieure peut être complétée par voie testamentaire. Mais tout le problème, c'est que dans la charia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une disposition très claire pour dire qu'on ne peut pas léguer par voie testamentaire à un héritier. Donc, voilà, la part de la fille est la moitié et ça ne peut pas être plus. Donc, vous voyez comment la charia ajoute quelque chose de limitatif par rapport à ce qu'était initialement le message coranique. Et on pourrait reprendre ça sur l'apostasie qui est très claire dans la charia, n'existe pas dans le texte coranique. La lapidation des femmes adultères n'existe pas dans le texte coranique. Je pense que ça, c'est intéressant d'avoir cette lecture. Bon, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'un texte sacré qui, lui aussi, doit être revu.
Voilà, ce qui est écrit dans un texte religieux n'est pas à prendre au premier degré, parce que c'est un contexte et tout est interprétation. C'est ce que dit Mohamed Charchi.
Exactement, tout est interprétation. Et le texte coranique aussi, donc a fortiori la charia peut être complètement remise en cause, ce droit islamique donc institué 2 siècles ou 3 siècles après la mort du prophète n'est plus aujourd'hui pour moi d'actualité. Tout ça c'est absolument clair. Et là, pour revenir à la Tunisie, dans la constitution actuelle tunisienne, nous avons refusé que la charia soit source du droit en Tunisie. Donc ça, c'est clair. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une lecture historique des textes sacrés, y compris le Coran. Et c'est là, c'est toute la liberté de pensée, de réflexion qui est mise en avant. Parce que pourquoi voulez-vous qu'un croyant soit attaché à certains écrits qui datent d'il y a 14 siècles. Le Coran parle de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, en Tunisie, on peut parler... La Tunisie abolit l'esclavage en 1842-46. Et pourtant, à l'époque, on ne parlait pas d'islam moderne, entre guillemets. Oui.
Elisabeth Levray, la question du religieux, l'interrogation sur comment être musulman et démocrate, comment être musulman et pouvoir avoir une forme de liberté de pensée. Est-ce que c'est quelque chose finalement que vous avez aussi retrouvé dans votre film sur le côté fataliste parfois qu'ont les populations que vous avez rencontrées, d'évoquer leur destin et cette foudre qui est tombée du ciel, c'est-à-dire cette bombe nucléaire qui les a irradiées? Est-ce qu'il y a un poids du religieux dans la situation aujourd'hui de ces gens qui semblent assez résignés au fond?
Moi, je ne parlerai pas de résignation. C'est vrai que c'est souvent, on me dit ça dans la réception de cette parole qui a l'air d'être sans colère, qui a l'air d'être... Moi, je pense qu'il ne s'agit pas du tout de résignation. Il s'agit de quelque chose qui demande un chemin plus grand, qui serait l'acceptation. Accepter, c'est aussi trouver la force de continuer. Il y a dans l'acceptation quelque chose qui permet d'aller au-delà. Cette chose est arrivée, effectivement. Il y a à vivre avec. Et sans doute que la croyance, la foi, est un des ingrédients pour pouvoir continuer. Mais voilà, je pense que c'est plus quelque chose de l'ordre de l'acceptation qui donne la force plutôt que la résignation.
Je vous remercie, Fawzia Charchi. lorsque vous étiez justement jeune étudiante dans les années 70 à Paris, est-ce que vous imaginiez que vous auriez un parcours d'engagement intellectuel tel que le vôtre et que vous pourriez, en 2017, prononcer la conférence de clôture des rendez-vous de l'histoire de Blois?
Je vais vous dire, j'ai toujours eu l'espoir. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça, on vit avec. Donc, on peut faire des choses.
Merci à toutes les deux, Elisabeth Levray, Faouzia Charfi, deux femmes dont la parole est libre, comme le chante Amel Matouti, icône de la révolution tunisienne. La Marche du Monde au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est une émission réalisée par Elliot Bourrel avec Manu Pochaise. Un grand merci au café Fluxus de la Fondation du Doute pour son accueil. Retrouvez-nous sur rfi.fr et sur Facebook. Réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.